moi, c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est la romancière française Virginie Grimaldi.
Pour moi, la littérature, il y a une musique, c'est pas simplement une histoire qu'on raconte, c'est une musique qu'on écrit, chaque phrase doit avoir son rythme, et les phrases, je les écris pas comme ça, je les enchaîne pas, elles sonnent dans ma tête, il faut qu'elles percutent exactement comme j'ai envie, et je les tourne jusqu'à ce qu'elles soient justes.
Avec plus de 700 000 exemplaires en 2019, Virginie Grimaldi est la romancière qui vend le plus en France. Un conte de fées moderne, qui est née sur Internet lorsqu'il y a 10 ans, elle lance un blog humoristique qui attire l'attention de ses premiers lecteurs. Cette jeune maman bordelaise rêve d'écrire depuis toujours, et grâce à ce succès en ligne, elle prend confiance en son talent et signe en 2015 son premier best-seller, Le premier jour du reste de ma vie. Virginie Grimaldi raconte des histoires qui font du bien, portées par des personnages féminins, confrontés à des moments souvent cruciaux de leur vie. C'est encore le cas avec son nouveau roman « Et que ne durent que les moments doux » qui vient de paraître chez Fayard. Il y a Lily, une toute jeune femme dont le petit garçon est né prématuré, et Élise, une mère dont les deux enfants majeurs ont pris leur envol. C'est de ce roman choral, encore plus personnel que les précédents, et de son incroyable histoire que Virginie a bien voulu parler dans cet épisode. Bonjour Virginie Grimaldi, vous allez bien ?
Bonjour, merci, je vais bien, et vous ?
Bah écoutez, pas mal, encore un peu confiné en fait. Vous, c'est votre cas ou pas ?
Ah oui, complètement. Moi, je suis hypochondriaque, donc je suis encore cloîtrée chez moi. Je sors pour l'essentiel et je fais respecter à tous mes proches une distance de sécurité de 5 ou 6 mètres. Tout le monde me déteste.
C'est vrai, à ce point-là ?
Non, j'en rajoute, mais je reste très prudente. Ouais, on reste très prudent ici.
C'est une période qui a été très, très compliquée, un peu compliquée pour vous, sachant que vous avez un enfant en bas âge.
Oui, il a 11 mois. Alors, ça a été très compliqué au début. Il y a eu une espèce de sidération, mais qui, je crois, a touché tout le monde. Beaucoup d'angoisse. Et puis, on s'est habitué et j'ai trouvé ça fou. J'ai l'impression qu'on peut s'habituer à tout parce que un mois plus tôt, on nous aurait dit il va y avoir un virus qui va toucher le monde entier. On va être confinés chez nous. On n'aura pas le droit de sortir. On aurait dit bien sûr. Et puis, c'est arrivé et c'est devenu notre quotidien. C'est assez dingue. Donc après la sidération, finalement, on a pris nos marques et on a essayé de profiter autant que possible. On avait la chance de pas être touché par le virus et de pas avoir de proches touchés. On est près de Bordeaux, donc on a été une région assez épargnée. Et on a essayé de vivre au mieux cette période en restant en famille.
Quelle place ont occupé les livres ? Alors d'abord, les vôtres pendant le confinement, est-ce que votre livre, il était terminé quand le confinement a commencé, je pense, non ?
Oui, il était terminé puisqu'il devait sortir au tout début du confinement.
D'accord.
Et on avait évidemment repoussé la sortie. Dès que le virus s'est approché, on a dit on va pas. C'était difficile de sortir un livre dans cette période où beaucoup de gens seraient touchés par le chagrin et la peur. Voilà, de toute manière, on avait pris la décision. Mais il était terminé et alors les livres pendant cette période ont été totalement absents parce qu'il a fallu. Gérer deux enfants à temps plein, dont un qui est scolarisé, donc je me suis transformée en maîtresse d'école.
Oui.
Et puis le petit, voilà, on a vraiment priorisé le temps passé avec les enfants. Et j'ai pas du tout lu et je n'ai pas du tout écrit et j'ai même pas pensé à écrire.
Est-ce que, malgré tout, et quand on pense au contenu de vos livres, on se dit que cette période, elle pourrait inspirer des personnages, des histoires? C'est une matière, c'est une nourriture de fiction formidable, ce qu'on vient de vivre, non ?
Oui, en effet, je vous cache pas que il y a une idée qui m'est venue, me chatouiller à un moment. J'imaginais parce que j'ai été très touchée de la solidarité qui est née pendant cette période et des beaux élans de générosité, autant que par les petits mots qu'ont reçus les soignants pour leur demander de dégager.
Oui.
Voilà, j'ai été touchée par le meilleur et le pire qui sont ressortis de cette période. Ouais. Et il y a comme ça dans mon idée une l'image d'un immeuble en confinement qui est né. Et puis très vite, je me suis dit que c'était une très très mauvaise idée et que je sais pas, j'avais l'impression, alors pas de profiter de ça, mais c'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt. On est encore un petit peu tous traumatisés, moi la première, et on va attendre. Peut-être qu'un jour une histoire naîtra, mais ce sera pas la prochaine. Ça c'est certain. Je sais pas. Et puis trouver une histoire, j'aime bien quand c'est un peu original. Là, à mon avis, on va être assez nombreux à avoir envie d'écrire sur ça, puisque c'est quelque chose qu'on a tous vécu ensemble et dans le monde entier.
Mais je crois que même Danny Boone a prévu d'écrire le début d'une comédie là-dessus. Hein.
Oui, j'ai vu ça passer sur Twitter. Ça a été assez mal accueilli d'ailleurs. Ouais. Je pense que personne n'a envie d'entendre parler de ça. Et d'ailleurs, on le voit comment la plupart des gens ont repris leur liberté sans aucune précaution. C'est qu'on a été... on a envie de tourner la page très vite, en fait. Je pense pas que ce soit le bon moment et je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, à vrai dire.
Alors, Virginie, du vécu, du réel, il y en a beaucoup, je pense, je crois comprendre, dans votre nouveau roman et que ne durent que les moments doux. Expliquez-moi un petit peu comment il est né.
Oui, alors du vécu, du réel, il y en a dans tous mes romans, mais c'est toujours disséminé, c'est caché derrière beaucoup de fiction. Et là, c'est le cas aussi, hein, c'est pas du tout mon histoire que je raconte. En revanche, c'est une expérience, une aventure que j'ai vécue il y a quelques mois. L'arrivée de mon fils ne s'est pas faite comme prévu. Il est né un petit peu en avance. Il a été hospitalisé en réanimation et puis en service néonat. Bon, ça a été un petit traumatisme, on peut dire. Je l'ai pas très bien vécu. J'ai eu très très peur. On a eu très très peur. Et c'est pendant qu'il était dans son berceau branché avec les bips qui sonnaient sans arrêt que l'histoire a commencé à s'écrire dans ma tête. Et j'avais prévu justement de pas écrire pendant un moment. J'avais prévenu tout le monde chez mon éditeur en leur disant il y aura pas de livre l'année prochaine parce que j'ai besoin de profiter de ce bébé qui arrive. Et puis cette histoire ne m'a pas laissé tranquille jusqu'à ce que je l'écrive. Donc il y a une part de moi parce que ça parle en même temps d'une maman qui vient d'accueillir un bébé qui arrive un peu trop tôt. Et en parallèle, on suit aussi l'histoire d'une autre maman qui, elle, voit ses enfants quitter le nid. Mmh. Parce que ce sont deux périodes charnières, je trouve, de l'existence d'une maman, d'un parent. Mais voilà, il y a un peu de moi, mais c'est pas mon histoire.
Alors Lily, ces émotions, elles puissent quand même chez des choses que vous avez ressenties en direct pendant quelques semaines, quelques mois, non ?
Oui, en revanche, les émotions, j'ai écrit ce roman sans aucun recul. Ouais. C'est celui que j'ai écrit avec le moins de recul, en fait. J'étais encore immergée dedans, j'étais encore sous hormones et je pleurais beaucoup en écrivant, je riais beaucoup, mais j'avais pas de recul. J'étais encore au cœur des émotions et donc voilà, ça affleure. Apparemment, ça se sent à la lecture. Qu'il a été écrit à chaud. Mais donc oui, je me suis servi des émotions que j'ai ressenties à ce moment-là et ça m'a fait un bien fou d'écrire. D'ailleurs, il a été écrit très rapidement. D'habitude, je mets du temps à écrire. Il me faut plusieurs heures pour vraiment commencer à... Enfin, il faut que je m'isole plusieurs heures pour écrire. Là, je pouvais grappiller uniquement quelques minutes par-ci, par-là et ça jaillissait dès que je me mettais devant l'ordinateur. C'était un peu cathartique, je crois.
Et justement, est-ce qu'il y a eu un premier jet comme ça que vous avez écrit très vite? Et est-ce que vous avez reposé le manuscrit pendant quelques semaines ou un peu plus? Et est-ce que vous l'avez repris après? Est-ce que vous avez eu l'impression presque de lire le récit de quelqu'un d'autre? Ou est-ce que ça vous a un peu surpris? Comment oui, est-ce que ce qu'on lit aujourd'hui, c'est vraiment ce que vous avez écrit à chaud? Ou est-ce que ça a été un peu remanié?
Non, c'est tout ce que j'ai écrit à chaud. Je n'ai pas, il n'y a pas eu de premier jet et de. Alors bien sûr, il y a des relectures après qui interviennent, qui s'étalent sur plusieurs semaines, voire mois. Mais non, il a été écrit. Ça s'est échelonné. Alors sur quand même plusieurs semaines. Je dirais que j'ai mis 3 mois à l'écrire parce que bon, j'avais pas trop le temps. Mais en effet, quand je relisais le début, je retrouvais des sensations qui déjà s'étaient un petit peu apaisées. Et c'était très étrange. C'est très étrange, cette expérience d'écrire sur quelque chose qu'on est en train de vivre encore. Et maintenant, quand je le lis, quand je le lis et quand je lis les messages des personnes qui l'ont lu, je me rends compte que voilà, maintenant ça appartient à mon passé, mais que il y a cette émotion là brute qui peut-être était plus douce dans les précédents romans. C'est-à-dire que j'ai toujours abordé des sujets qui me touchent profondément, qui me remuent, dont j'ai besoin de parler, souvent le temps qui passe ou enfin voilà, ça a toujours été des sujets très importants pour moi, sur souvent des expériences vécues, mais avec beaucoup de recul. Je parle du passé souvent, ou du futur, mais pas du présent. Et là, c'est inédit, et c'est très très fort. J'ai l'impression que ça crée un lien très fort avec les lecteurs. C'est très très puissant.
Ce qui est d'autant plus frustrant, c'est de ne pas pouvoir aller en discuter avec eux pendant des séances de dédicaces. Ça doit vous manquer un peu, ça, non ?
Oui, vraiment. Vraiment, ça me manque beaucoup. Après, je suis un peu sauvage et je fais pas souvent des dédicaces parce que ça m'impressionne beaucoup à chaque fois. C'est une énergie folle parce que je stresse des jours avant, je ne dors pas des jours avant, et puis après, je suis euphorique pendant 10 jours. Donc c'est beaucoup d'énergie, mais oui, ça me manque énormément, d'autant que j'ai l'impression que les lecteurs ont beaucoup de choses à me raconter. Alors heureusement qu'il y a les réseaux sociaux qui permettent d'échanger, et puis et les mails. Voilà, on échange comme ça, on essaie de remplacer. De remplacer le réel par le virtuel, en espérant pouvoir vite retourner faire de vraies rencontres.
On va reparler justement des réseaux sociaux et d'Internet, parce que sans Internet, on ne serait pas là sans doute en train de discuter. Ça a beaucoup compté dans la façon dont vous avez été révélé. Mais avant, moi, je voudrais parler d'un aspect du roman, enfin, d'un métier ou plutôt d'une occupation, je ne sais pas comment on peut décrire ça, qu'on peut découvrir pour certains dans le livre, ce sont les câlineurs. Expliquez-moi un petit peu votre découverte des câlineurs.
Oui, j'ai découvert qu'il existait des... Alors, je le savais déjà parce qu'il y a Baptiste Beaulieu qui en parle dans un de ses livres. Mmh. Et je l'avais découvert à cette occasion. Et là, en néonat, j'ai découvert qu'il existait des câlineurs. Alors, à Bordeaux, ça s'appelle des câlineurs. Dans d'autres hôpitaux, ça peut s'appeler des berceurs. Voilà, c'est différent, c'est propre à chaque hôpital. Mais ce sont des bénévoles qui viennent prêter leurs bras à des bébés qui en ont besoin. Qui sont en néonat ou en réanimation et dont les parents ne peuvent pas venir ou ne veulent pas venir pour tout un tas de raisons. Et en fait, on s'est rendu compte que les bébés qui reçoivent de l'affection, du pot à pot notamment, s'en sortent mieux que les autres. Et ça apaise leur rythme cardiaque, leur rythme respiratoire, ça apaise leur stress. Et surtout, voilà, ça augmente leur chance de survie. C'est incroyable. Et donc, il y a des personnes qui viennent prendre le relais des parents parce que parfois, les parents ont d'autres enfants dont ils doivent s'occuper. Parfois, ils habitent loin aussi, dans une autre région. Donc, c'est pas facile. Bon, voilà. Et d'autres qui sont un peu traumatisés ou des mamans qui ne sont pas aptes parce qu'elles ont eu une opération. Enfin, voilà. Il y a tout un tas de raisons qui font que les parents ne peuvent pas venir. Et donc, il y a des bénévoles qui viennent prendre le relais. Et je trouve ça magnifique. Et je me suis rendu compte de l'importance du pot à pot et de ces câlins. Mon fils avait un rythme respiratoire très élevé. Il respirait très vite et c'était pas bon du tout. Et la première fois qu'ils me l'ont posé dessus, donc il avait tous ses fils, tout ça, il était branché, on voyait son rythme respiratoire sur l'écran, et c'est descendu, mais immédiatement, ça s'est apaisé. Et c'était assez incroyable, c'est un peu magique.
Vous avez fait appel à un câlineur, vous ? Vous avez eu besoin ?
Non, pas du tout, alors moi j'étais là tout le temps.
D'accord.
Non, parce que j'ai été hospitalisée aussi un petit moment suite à l'accouchement et j'étais à l'étage en dessous, donc il me suffisait de monter et j'y passais mon temps. Et en plus de ça, ils ont installé des fauteuils qui sont pas très confortables mais qui permettent de rester aussi longtemps qu'on veut. On peut venir de nuit comme de jour, donc j'y passais à peu près toutes mes nuits et tous mes jours. Et ensuite, j'ai eu la chance, il y a des chambres aussi parents-enfants pour ceux qui sont en transition vers la sortie. Et pendant les 3 derniers jours, j'ai pu rester là-bas 24 sur 24.
Alors Virginie, je disais que vous deviez une partie de votre succès à Internet et aux réseaux sociaux, pour ceux qui vous connaissent peu ou pas, tout commence avec un blog. Expliquez-moi un petit peu, est-ce que ce blog, au départ, ce sont les graines un peu des romans que vous avez envie d'écrire, ou est-ce que ça n'avait pas ce but-là au départ ?
Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant le blog, j'avais envoyé un manuscrit à des maisons d'édition, j'avais eu des refus, et j'avais ce besoin d'écrire, et j'avais très envie d'être lue, parce que je crois qu'on a souvent envie d'être lue quand on écrit, et en même temps, j'étais pas du tout sûre d'avoir une plume qui intéresse qui que ce soit, ou d'avoir quoi que ce soit d'intéressant à raconter. Et j'ai ouvert ce blog un jour où j'étais un peu désœuvrée, et j'ai raconté des chroniques du quotidien, alors toujours en grossissant le trait. C'était pas mon journal intime, je racontais pas ma vie, mais je racontais des chroniques du quotidien avec humour souvent, et les lecteurs ont été au rendez-vous, et ce sont eux qui m'ont poussée à écrire, à persister dans mon rêve de petite fille, d'ailleurs, ce rêve que j'ai depuis toujours, et à participer à un concours de nouvelles qui avait lieu, donc auquel j'ai participé 2 années d'affilée. La première année, je n'ai pas gagné, la deuxième, j'ai gagné. Et ensuite, c'est pareil, c'est une des lectrices qui m'a envoyé un lien par un concours un appel à manuscrits pour un concours. J'ai donc écrit le manuscrit de mon premier roman, Le premier jour du reste de ma vie, qui ne s'appelait pas du tout comme ça, en un mois, puisque la date butoir était 30 jours après. Je n'ai pas gagné, et je comprends, parce qu'il était vraiment pas bon. Il y avait tout à réécrire. Il est resté des mois dans mon ordinateur ensuite, parce que j'étais persuadée que voilà, bon, ça s'arrêtait là. J'étais pas faite pour ça. Et puis, c'est une amie qui a souhaité le lire des mois plus tard, et qui m'a tannée jusqu'à ce que je l'envoie à des éditeurs, et j'y croyais tellement pas que je me suis dit je vais pas le faire imprimer, relier et l'envoyer par la poste. J'ai cherché les éditeurs qui acceptaient les manuscrits par mail, j'en ai trouvé un, je lui ai envoyé, 2 jours plus tard il m'a appelé et l'aventure commençait. Alors je l'assumais pas, ce roman, donc je l'ai, après son accord, je l'ai complètement réécrit.
C'était quoi votre...
Ça a pris plus de temps que le premier jet.
C'était quoi votre métier, Virginie, à l'époque? Vous faisiez quoi avant d'écrire? Peut-être que vous faites toujours, d'ailleurs, je ne sais pas.
Non, j'ai arrêté il y a 2 ans maintenant. J'étais dans la communication web, et avant ça, j'étais assistante commerciale. Ouais. J'ai fait des études. Alors, je voulais faire des études de lettres, mais j'avais envie de gagner ma vie, et donc j'avais fait un BTS en alternance pour pouvoir avoir un petit salaire. Et puis ensuite, j'ai travaillé brièvement dans la banque. Je suis restée 1 an et demi. Je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi. Mon directeur me hurlait sans cesse, mais bon sang, allez faire du social.
C'est vrai.
Ouais, c'était compliqué. Mais je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas pourquoi on donnait pas de l'argent à ceux qui venaient en demander, même s'ils en avaient pas sur leur compte. Non, c'était assez compliqué. Et donc, après, j'ai été assistante commerciale. Et puis il y a eu un événement dans notre vie qui m'a fait me dire il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes, et je me suis mise à mon compte pour être rédactrice web et chargée de communication web. Vu que je connaissais un petit peu le milieu grâce à mon blog, j'ai rapidement eu des clients de belles marques qui m'ont fait confiance, et voilà, j'ai pu travailler comme ça pendant quelques années. Et ça m'a laissé le temps aussi de m'occuper de mon fils qui est arrivé, le premier, et d'écrire.
Donc vous diriez que pendant des années, vous aviez une sorte de désir contrarié d'écriture, que vous repoussiez un peu l'échéance, mais qu'au fond, c'était ce que vous aviez envie de faire.
Oui, complètement. J'ai toujours eu envie de faire ça. Quand j'étais petite, sur les fiches de l'école, quand ils nous demandaient quel métier on voulait faire, je mettais ça, je mettais écrivain. Mais vraiment, non seulement j'ai jamais cru avoir le talent pour ça, mais en plus j'étais persuadée qu'il fallait un réseau, qu'il fallait connaître du monde à Paris, que de ma petite province c'était complètement inaccessible. Et donc très rapidement, le rêve de petite fille a été recouvert par la réalité, par le quotidien, par le travail, le train-train. Et ça a failli, vraiment, s'il n'y avait pas eu le blog, ce serait enseveli et le rêve serait complètement effacé aujourd'hui. Et le blog a permis ça, de le refaire jaillir. Et c'est formidable parce que quelle belle aventure.
Est-ce que c'est aussi lié au fait que vous aviez peut-être une image de l'édition et des livres que les éditeurs recherchent qui ne correspondaient pas aux histoires que vous aviez envie de raconter? Est-ce que vous êtes dit peut-être, moi, mes histoires, elles m'intéressent que moi, c'est pas de la littérature classique au sens de l'édition parisienne. Est-ce que c'était un peu, est-ce qu'il y avait une forme de complexe aussi par rapport au genre d'histoire que vous aviez envie de raconter?
Pas tellement, parce que ces dernières années, depuis quelque temps maintenant, ça s'est ouvert. On n'est plus dans la littérature classique. Dans la littérature contemporaine, maintenant, il y a de tout. Et donc, je lisais déjà des livres qui se rapprochaient de ce que j'aimais écrire. Je pense à Anna Gavalda. Alors, le premier livre qui m'a fait rire, parce que j'aime aussi faire rire. J'aime provoquer des émotions, mais j'aime beaucoup faire rire. Et je me souviens avoir lu le journal de Bridget Jones quand j'avais une vingtaine d'années. Et je m'étais dit, bon sang, on peut faire rire en écrivant, c'est génial. Et donc, ça existait, ce genre de roman qui provoque des émotions et pas forcément des classiques ou de la littérature blanche. Voilà, je savais que ça existait. Mais non, c'était que je n'avais pas confiance en ma plume. On n'est pas du tout dans une famille d'artistes, d'écrivains. Alors, même si ma grand-mère écrit beaucoup et je trouve qu'elle écrit très bien, mais c'était pas le milieu dans lequel j'ai grandi. Et j'étais pas sûre du tout d'avoir... Oui, il y avait un complexe d'infériorité, mais pas par rapport à la littérature qui existait, plus par rapport à... mais qui existe encore, hein.
Oui, malgré tout. Encore. Malgré le succès, malgré les ventes de livres.
Ah, il y a un gros syndrome de l'imposteur, oui.
C'est vrai.
Oui. Je suis toujours pas sûre de moi. Et d'ailleurs, c'est très douloureux quand je me relis, heureusement qu'il y a les autres, mon mari, mon éditrice, qui me disent non, tu arrêtes, tu n'effaces pas tout, parce que j'ai envie de tout effacer. C'est très douloureux de me relire. C'est assez douloureux. C'est comme un miroir déformant, j'ai l'impression. Je lis pas la même chose que les autres. Donc, tant mieux, j'ai appris à faire confiance aux autres plutôt qu'à me faire confiance à moi. Et puis en même temps, je me dis que c'est pas plus mal parce que j'espère ne jamais être satisfaite de ce que j'écris. Ça me pousse à donner le meilleur. C'est important pour moi d'offrir des livres de qualité. J'essaie vraiment de... pour moi, la littérature, il y a une musique. C'est pas simplement une histoire qu'on raconte. C'est une musique qu'on écrit. Chaque phrase doit avoir son rythme. Et les phrases, je les écris pas comme ça. Je les enchaîne pas. Elles sonnent dans ma tête. Il faut qu'elles percutent exactement comme j'ai envie. Et je les tourne jusqu'à ce qu'elles soient justes. Et donc, je suis très exigeante dans mon écriture. Et finalement, c'est le syndrome de l'imposteur qui permet ça, sans doute. Donc, c'est pas mal de l'avoir. Mais en même temps, c'est assez douloureux. Je me revois appeler mon éditrice en pleurs en lui disant, bon, allez, c'est de la merde, on efface tout, on arrête. Je te rembourse, on arrête.
Quand vous voyez le classement des romanciers qui ont le plus vendu en 2019, que vous voyez écrit Guillaume Musso, Michel Bussy, Virginie Grimaldi, et que vous voyez que vous êtes la troisième, vous êtes surtout la première femme du classement. C'est presque un point de départ de roman, non?
Oui, c'est vrai. Ah, ça devrait me donner une idée, oui. C'est dingue. C'est quelque chose, c'est-à-dire que faire publier son premier roman, c'était déjà un rêve. Je croyais que c'était bon. C'était fait. Le voir en librairie, c'était un autre rêve. Et puis là, ce classement qui veut dire quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le lisent, c'est-à-dire que ce n'est pas un classement par rapport aux autres, ça veut dire qu'il y a, plein de gens qui ont lu les histoires que j'ai inventées. C'est incroyable.
C'est plus de 700 000 l'an dernier, oui.
Ah oui, c'est incroyable. Et puis, me trouver à côté de ces personnes-là que j'ai admirées, je me souviens, Marc Lévy, par exemple, que je regardais il y a 20 ans, avec beaucoup d'admiration et d'envie.
Vous êtes devant lui maintenant.
Comment ?
Vous êtes devant lui maintenant, voilà.
Ben oui, alors je suis à côté de lui.
C'est, oui, à côté de lui plutôt.
Oui, ouais, je suis à côté de lui et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que la nouvelle est tombée au mois de janvier et je ne m'en suis pas remise.
Ah oui, c'est vrai.
on est au mois de juin. Oui, c'est quelque chose que je réalise pas. Et en même temps, mon quotidien est tellement loin de ça que j'y pense pas tout le temps. Donc à chaque fois que j'y pense, c'est un petit électrochoc et, qui est super agréable.
Alors Virginie, ce podcast s'intitule « Les gens qui lisent sont plus heureux ». Et comme, comme pour chaque invité, c'est un peu un passage obligé, je dois vous demander si vous êtes d'accord. Alors est-ce que Virginie Grimaldi, est-ce que pour vous, les gens qui lisent sont plus heureux ?
Ah oui, ils sont plus chanceux parce qu'ils ont la possibilité de s'évader et de vivre d'autres vies quand la leur ne leur convient pas.
Vous,
donc,
c'est ça.
Indubitablement, on est plus heureux. Ah oui, moi, ça me permet de vivre d'autres vies. La réalité, je suis quelqu'un d'assez anxieux et de très angoissé par la mort, par le temps qui passe. Donc parfois, j'ai des périodes où, assez sombres qui sont contrebalancées, heureusement, par. J'ai un côté aussi très joyeux. Donc bon, il y a un peu des deux en moi. Mais la lecture me sauve, oui. La lecture me permet de m'évader, de vivre d'autres vies, de ressentir d'autres émotions et de m'extirper à ce quotidien de temps en temps. Et c'est salvateur.
Vous avez des collègues qui n'ont plus ou moins le temps d'écrire, de lire parce qu'ils écrivent beaucoup. Est-ce que vous, il y a toujours une place accordée à la lecture au quotidien ?
Alors, pas en ce moment, mais pas parce que j'écris, parce que j'ai un bébé et que c'est beaucoup plus compliqué. Mais je lis toujours un petit peu le soir avant de m'endormir. Mais en effet, en ce moment, j'y consacre moins de temps que je voudrais. Pendant les périodes d'écriture intensive, je ne lis pas tellement. Ou alors, je lis quelque chose de très éloigné de ce que j'écris parce qu'on a toujours peur d'être un peu influencé par la plume qu'on est en train de lire. Et donc voilà, je lis moins dans les périodes d'écriture, mais sinon, non, je suis une grosse lectrice.
Qu'est-ce qu'il y a sur la table de chevet de Virginie Grimaldi en ce moment ?
Alors en ce moment, je suis en train de lire Adèle Bréau, Frangine.
Ouais.
Adèle Bréau, c'est une autrice qui a écrit déjà 3 romans, me semble-t-il. Je les ai tous lus et j'aime énormément sa plume. Elle a une plume moderne, très poétique. Et là, c'est l'histoire de 3 sœurs qui rejoignent leur famille en Provence. Et c'est assez savoureux.
Est-ce que vous aimez les romans noirs, très noirs, Virginie ? Est-ce que ça vous arrive de lire des thrillers avec des serial killers et d'avoir envie d'en écrire ?
Non, pas du tout.
Pas du tout ?
Non, je ne saurais pas écrire ça. Les romans noirs, alors pas forcément des thrillers ou ou avec des meurtres et tout ça. J'aime les romans noirs psychologiques ou alors les. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est Henri Lovenbruck,
oui.
Qui a écrit notamment Nous rêvions juste de liberté, qui est dans mon top 3. Absolu, un roman magnifique, donc un roman noir, mais et qui écrit plutôt des polars habituellement. Mais non, j'aime pas, je suis pas tellement attirée par les thrillers avec plein de sang. Si, j'aime énormément les noms ne me reviennent pas. Pourtant, Olivier Norek.
Ah ben Olivier Norek, avec qui vous partagez un aspect important, vous savez ça, je pense, non ?
On a gagné le même prix.
Voilà, le prix, le prix au féminin, y écrire,
oui.
il y a quelques années.
Alors, exactement, il l'a gagné l'année précédente ou 2 ans avant, oui.
Sachant que lui, bon, voilà, vous, le prix au féminin, pour vous, c'était peut-être plus prédestiné que pour lui.
Oui, tout à fait.
Par rapport au genre d'histoire qu'il raconte, mais Olivier Norek a gagné ce prix un petit peu après vous, c'est ça, je crois ?
Avant l'année vous, d'avant, ouais. Ou 2 ans avant, oui.
Comment ?
Oui, et je suis assez fan de sa plume, notamment Entre deux mondes, qui est fabuleux et qui est nécessaire, que tout le monde doit lire.
Est-ce qu'on va voir des adaptations à la télévision ou au cinéma des livres de Virginie Grimaldi ?
C'est en cours, oui.
Ouais.
Alors, je croise les doigts pour que ça se concrétise, mais il y a un des romans, notamment Il est grand temps de rallumer les étoiles, dont le tournage devrait commencer l'année prochaine. Donc,
donc
c'est assez bien avancé.
C'est pour la télévision ou le cinéma ?
Comment ? Cinéma.
C'est pour le cinéma, d'accord ?
Oui. Cinéma, et je ne peux pas en dire plus, malheureusement.
C'est
j'ai
vrai.
Très envie et j'ai hâte de pouvoir en dire plus.
D'accord.
Pour l'instant, je ne peux pas. Et le casting est en train de se faire. Ça correspond bien à ce que j'imaginais. Donc c'est très excitant. Et puis, les autres, tu comprendras quand tu seras plus grande, qui est bien avancé aussi. Et puis, d'autres qui viennent d'être mis en route. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais je suis très, très heureuse des personnes qui ont été séduites et qui adaptent, en fait. Je suis très heureuse des choix qui ont été faits.
Vous participez de près ou de loin aux adaptations ou vous leur faites totalement confiance ?
Alors, jusque-là, je leur faisais totalement confiance. Je leur fais totalement confiance parce que je pense que c'est un objet différent et que ça pourra pas coller exactement à ce que j'ai écrit. Et donc, je préfère m'en désolidariser complètement et regarder ça de loin comme un nouvel objet. Et j'en serai d'autant plus émue. Il y a juste pour « Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie », où j'ai souhaité avoir un rôle de consultant. Alors, je vais pas vraiment intervenir dans l'écriture, mais il y a un sujet que je traite dans ce roman qui m'est cher. Et je tenais à voir comment il allait être abordé. Voilà, mais c'est le seul.
Est-ce que vous auriez envie d'écrire une série télé, Virginie ? Parce qu'en ce moment, tout le monde regarde des séries, c'est même un concurrent. Ce sont des concurrentes pour les romans. Est-ce que vous, c'est un univers qui vous attire ?
Je regarde beaucoup de séries, mais non, je laisse ça à ceux qui savent le faire. Moi, j'écris des romans et je me sens pas du tout capable. Et puis un roman, ça prend déjà beaucoup de temps. Peut-être quand mes enfants seront partis de la maison et que j'aurai plus de temps, on verra. Mais pour l'instant, c'est pas du tout un souhait, une envie. Mais je suis très consommatrice de séries.
Est-ce que vous êtes un peu inquiète pour l'avenir du livre ? En ce moment, on voit que le confinement fait des ravages. En tout cas, c'est difficile pour de nombreux libraires, même les maisons d'édition. Voilà,
même
les auteurs. Est-ce que vous êtes sensible un peu à cette situation ?
Bien sûr, j'ai très peur que beaucoup de librairies ne réussissent pas à se relever du confinement et de cette fermeture qui les a vraiment plongés dans une sorte de désarroi. Donc oui, j'ai très peur parce que c'est un chaînon indispensable du secteur du livre. Et puis j'ai peur pour beaucoup de maisons d'édition qui n'avaient peut-être pas les reins solides. Enfin, c'est terrible, mais enfin, ça va être le cas dans plein de secteurs. Dans le livre, oui, en particulier, mais il y a plein de secteurs pour lesquels ce confinement a été désastreux. Donc on verra, et j'ai beaucoup de peine pour les auteurs qui ont sorti des romans juste avant le confinement ou juste après. C'est assez compliqué quand les librairies n'avaient pas encore rouvert. J'espère qu'ils auront la place quand même d'exister. C'est assez dur. Je suis contente finalement que mon roman soit sorti bien après. Et pas tout de suite, parce que ça aurait été difficile de le voir sortir sans pouvoir vraiment exister. Je pense que c'est déchirant pour les auteurs qui vivent ça. Et j'espère qu'ils auront le temps de s'installer. Mais en même temps, je vois qu'il y a la rentrée littéraire qui arrive déjà. Donc ça va être compliqué cette année. J'espère que les maisons d'édition leur feront confiance pour rebondir l'année d'après. C'est assez déchirant. Je suis pas mal d'auteurs et je suis amie avec certains d'entre eux. Et je vois leurs posts sur les réseaux sociaux et on en discute. C'est très dur. C'est très dur et je me mets à leur place. Heureusement que le mien est sorti plus d'un mois après le déconfinement. Ça a permis aux librairies de se remettre en route et aux lecteurs d'avoir suffisamment d'énergie et de moins de crainte pour retourner en librairie.
Vous justement, Virginie, on en a parlé au tout début, on va terminer avec ça. Il faut que vous surmontiez votre crainte. Vous me disiez que vous étiez hypochondriaque, mais il faut que vous alliez dédicacer votre livre dans les librairies. Les libraires ont besoin de vous, non ?
J'ai imaginé quelque chose dont je dois parler à mon éditrice. Vous voyez, vous avez la primeur.
D'accord.
Je me suis dit qu'on pouvait peut-être organiser des dédicaces en extérieur et on prend beaucoup moins de risques. Donc, il faut que je trouve une librairie qui ait une petite terrasse ou un petit extérieur. Et là, j'y vais avec grand plaisir.
À Bordeaux.
Mais À Bordeaux, oui, à Bordeaux de préférence, mais sinon, non, je peux bouger un petit peu.
Ouais.
Mais voilà, non seulement je suis hypochondriaque, mais il y a des personnes à risque dans ma famille aussi.
D'accord.
Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que je reste très prudente. Mais, et puis, je n'ai pas envie de mettre en danger non plus les lecteurs en les faisant se déplacer dans un endroit clos.
D'accord.
On ne sait pas du tout où en est l'évolution du virus, donc je préfère rester très prudente. Mais en extérieur, j'adorerais. Ça me manque tellement. Que oui, on va trouver ça, on va organiser ça.
Donc avis aux libraires qui écouteront ce podcast.
Exactement.
Si vous avez une terrasse ensoleillée avec un parasol quand même, parce qu'il risque d'y avoir du monde quand même à la dédicace. Donc il faudra aussi il faudra respecter aussi un mètre entre chaque lecteur. Mais Virginie Grimaldi, vous êtes partante.
Ah, je suis complètement partante. J'ai hâte d'y retourner. Et d'ailleurs, il y a un salon que j'aime beaucoup, le salon de Vannes, qui a été repoussé au mois de septembre. Donc jusque-là, j'ai maintenu ma présence sous réserve de l'évolution du virus. Et j'aimerais beaucoup qu'il le fasse en extérieur parce que ça arrangerait tout le monde et ça permettrait d'être beaucoup plus serein lors de la signature et lors des rencontres. Parce que j'ai peur qu'il y ait beaucoup de personnes qui n'aient pas envie d'aller dans la foule comme ça. Tout est plus compliqué. Tout est plus angoissant et c'est pas censé être des moments anxiogènes.
Écoutez Virginie, je vous remercie pour ce petit moment. Je vous dis à bientôt dans un monde moins angoissant peut-être, déconfiné et moins angoissant. Et je vous souhaite un bel été. Merci beaucoup Virginie
merci
pour ce petit
beaucoup,
moment.
Merci à vous.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
C'est la fin de cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager et tout simplement à en parler avec d'autres passionnés de lecture comme vous. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et sur la page spéciale qui lui est consacrée sur lci.fr. Les gens qui lisent sont plus heureux. C'est aussi un compte Instagram où vous pouvez retrouver les coulisses de chaque épisode. Je vous dis à bientôt et bonne lecture !